Good Morning Hossegor, l'interview, rencontre avec les acteurs du territoire, du lundi au vendredi à 9h, rediffusion à 16h. Bonjour à tous, bienvenue dans Good Morning Hossegor, l'interview sur Web Radio. On vous propose de reprendre le bal des rencontres de la meilleure des manières aujourd'hui avec de la couleur, de la perspective, du mouvement, de la richesse en compagnie de Christophe Mabillon, CEMAB, artiste plasticien et graphiste qui expose au restaurant du golfe d'Hossegor jusqu'au 2 juin. Bonjour Christophe.
Bonjour Alice.
Tu es artiste, protéiforme, sculpteur, peintre, graphiste. Cette exposition condense tes différentes pratiques, la pluralité des matériaux, des styles et des sujets, avec pour angle principal les Landes, c'est-à-dire Hossegor, le surf, la forêt, l'océan.
Exactement, bah t'as tout dit presque. Non, effectivement, artiste protéiforme, c'est un petit peu ce qui me caractérise en fait. C'est-à-dire que j'attaque les thématiques sous différents angles, presque je fais un reset thématique, enfin sur la, j'attaque des différentes thématiques, mais je fais un reset de style, voilà, c'est ça que je veux dire, stylistique.
Donc tout de en technique gardant,
de non, justement.
Ok.
J'ai toujours un squelette technique qui permet peut-être, enfin, de voir ma trace dans chaque œuvre. Mais j'aborde différemment, en fait, j'essaie d'oublier ce que j'ai fait avant pour me renouveler, et c'est ça en fait mon style quoi. Souvent les artistes sont un style et ils le déclinent sur toutes les thématiques. Moi j'ai l'impression que c'est un peu l'inverse. J'aime me remettre en question sur une nouvelle thématique en l'abordant d'une manière différente.
Alors au centre de cette exposition, parmi les peintures, on peut admirer des exemplaires de plusieurs séries, This is Hossegor, Le Centenaire, la série Golf ou encore Surfing et Land, des sujets nature, sport, architecture que tu explores avec quand même des techniques différentes. En peinture notamment, tu utilises de la peinture acrylique, de l'aquarelle, de l'encre de Chine, du graphite, des pochka, des pinceaux, un aérographe. Les techniques, supports et matériaux sont multiples.
Exactement. En fait, dès que j'aborde une technique, je sens instinctivement ce qui va me permettre d'explorer le mieux l'univers que j'ai dans la tête et qui correspond à ce que j'ai vu et ce qui m'inspire et ce qui m'influence surtout. Alors par exemple, au niveau architecture, bon, je trouve que faire un dessin solide à l'encre de Chine et ensuite délirer un peu à l'aquarelle dessus pour donner de la vie au sujet, c'est comme ça que j'aborde cette thématique. Par contre, si je fais par exemple les pins des Landes, j'ai été souvent inspiré par les techniques japonaises, un petit peu les estampes, donc je reste vraiment dans un noir et blanc et là l'encre de Chine s'impose naturellement. Voilà, elle me permet d'exprimer la plénitude de cette thématique qui fait un peu penser à des ombres chinoises presque. Et je trouve que ça laisse beaucoup de place à l'imagination.
Et dans un même tableau, tu peux utiliser plusieurs outils et types de peinture.
Oui, tout à fait.
L'idée, en fait, c'est le rendu que toi, tu as envie d'avoir.
Exactement. Il n'y a pas de limite à l'objet qui va me permettre d'atteindre ce que je veux, la finalité. Voilà, donc je peux utiliser les doigts, je peux utiliser la gomme, je peux utiliser le pinceau, je peux utiliser graver, je peux griffer, je peux poncer, retirer, arracher, coller, déchirer. Voilà, il n'y a pas de limite tant que je n'ai pas atteint la plénitude de ce vers quoi je tends. Même si un artiste est toujours un peu frustré parce qu'il n'atteint jamais vraiment ce qu'il a voulu faire, quoi. Donc le plus dur, c'est philosophique. Hein. Faut arrêter l'œuvre, à quel moment on l'arrête, hein. Bon, il faut bien l'arrêter parce qu'à un moment, quand il y en a trop sur la toile, non, c'est pas bon.
Et on le disait, dans tes œuvres, il y a plusieurs styles aussi. Là, pour cette exposition, on retrouve un style un peu rétro-vintage. Il y en a d'autres qui sont plus modernes, plus graphiques, d'autres plus réalistes, plus abstraits. Ça veut dire quoi? Que tu explores, que tu as des périodes, que c'est toi qui initie ce changement à chaque fois parce que tu as envie de te renouveler?
Je crois que tu as bien trouvé le mot. J'explore et j'ai aussi des périodes. Voilà. Et quand, tant que je n'ai pas, je suis pas allé au fond des choses sur une période, en général, je passe pas à la suivante. Par exemple, sur le golf, là, il a fallu que je m'impose un peu de me plonger dans cet univers. Bon, j'avais déjà exploré différents sports, hein, le tennis et aussi bien la glisse, hein, forcément. Et donc là, je me suis imposé. Donc j'ai trouvé que l'aérographe, par exemple, sur les œuvres, il y a à peu près 6 œuvres sur le golf qui sont exposées. Donc l'aérographe remettait bien en perspective la vitesse, l'esthétique et le côté sobre de ce sport. Voilà, donc moi j'invite à voir ces œuvres qui sont les seules d'ailleurs à l'aérographe de l'exposition. Voilà, donc il y en a 2 en Posca, 4 à l'aérographe. Donc moi je revendique toujours mes influences. Hein, donc celle à l'aérographe, je me suis bien quand même. Je suis allé bien rechercher mes influences sur Armand, l'artiste bien connu qui n'est plus. N'est plus de ce monde, mais qui faisait de la superposition au pochoir, etc. Donc c'est une technique qu'on retrouve là sur cette thématique.
Et justement, dans toute cette exploration de techniques, de supports, de matériaux, tu te nourris de plein d'influences comme ça ?
Tout à fait. Alors mes influences vont du grand classicisme Renoir jusqu'à Soulages, en passant par Klein, par Bazzarelli, voilà. J'essaie de piocher dans chaque artiste puissant quelque chose qui me correspond à moi. Alors j'aime beaucoup les mathématiques et j'aime beaucoup la philosophie, donc ce côté optique art est très très influent dans ma manière de composer. En fait, quand je compose une œuvre, je mets une base très solide technique, ce qui me laisse après de la place à l'improvisation pour la finalité. Et donc, ce squelette de l'œuvre permet d'avoir quelque chose de très profond techniquement. Mais l'âme, c'est à la fin que j'imprègne la silhouette. Voilà. Pour avoir la communication avec celui qui va regarder.
Et ça veut dire qu'avant de devenir artiste, tu étais passionné d'art et art au pluriel avant tout ?
Alors j'étais passionné sans le savoir en fait, parce que je faisais beaucoup de sport quand j'ai commencé. J'ai commencé par le foot, c'était en sport-études, j'étais un jeune espoir du foot avant de me blesser. Donc là je suis passé complètement à autre chose, j'ai senti que bon, j'avais peut-être pas le physique qui allait tenir pour pouvoir être aussi tenir la cadence quoi. Donc c'est là que s'est réveillé un petit peu en moi les choses qui sommeillaient en fait, hein, et ne pensant plus au sport, j'ai pensé à d'autres choses et en fait ma curiosité, j'ai toujours été quelqu'un de très curieux et en analysant j'ai vu que j'aimais l'art en fait, j'aimais l'esthétique, j'aimais la construction des choses aussi, comprendre comment elles arrivaient, pourquoi elles nous donnaient de l'émotion. Enfin, j'ai essayé de comprendre, hein. On ne comprend pas toujours pourquoi ça nous donne de l'émotion, mais l'émotion...
En tout cas c'est ce cheminement...
Exactement, c'était ce cheminement qui était très intéressant.
À l'exposition, on peut admirer des sculptures aussi en marbre que tu travailles depuis longtemps et puis d'autres, les écorces océaniques qui mêlent éponge naturelle avec pigments et puis socle en plexi ou en bois flotté. Encore des explorations.
Alors, je dirais que tout a commencé par là, puisqu'en fait, j'étais sculpteur avant de devenir plasticien et peintre. J'ai commencé par travailler le marbre. Ça a été une découverte. Suite à un moment pas très facile dans ma vie, une rupture, et ça m'a amené à une réflexion plus profonde. Donc je commençais à taper un peu dans la pierre et j'ai découvert que j'avais peut-être un talent caché. Donc je suis allé à Carrare en Italie chez un pro qui m'a formé. Je suis revenu avec du marbre et là j'ai commencé à faire pas mal de sculptures. Et puis j'ai eu un rayonnement très rapide en fait, ça a été forme d'éclair, hein, sur les expositions, les gens me voyaient arriver comme un météore, quoi. Parce que le marbre, plus personne n'en fait. Ça, c'est quand même assez difficile. La matière coûte cher. C'est un vrai investissement physique et mental dans la matière, quoi. Donc j'ai commencé par ça. Et puis je suis venu finalement aux arts graphiques parce que là où je sculptais dans ma cave à l'époque, c'était l'hiver, il faisait froid, donc je commençais à dessiner.
Pour des questions de confort.
Voilà, donc comment la liaison s'est faite. Alors, les éponges, c'est venu beaucoup plus tard. Bon, j'ai toujours été un grand fan d'Yves Klein, avec ses éponges bleues. Et je me suis dit, tiens, lui, il s'est arrêté à un endroit où moi, j'aimerais aller encore beaucoup plus loin. Donc, explorer d'autres couleurs et des supports recherchés, plus nobles que des fils de fer comme il utilisait sur un caillou. Alors... il y a des belles matières à découvrir sur cette exposition, notamment des éponges qui sont assez énormes.
Mais imposantes.
Qui font entre 30 et 50 cm de diamètre, soclées sur des bois fossilisés qui ont entre 50 et 100 millions d'années. Voilà. Alors il y en a à peu près 5 ou 6 qui ont des bois fossilisés, pétrifiés, hein, comme on dit aussi. Et il y a du bois flotté. Alors, je l'ai travaillé d'une certaine manière, le bois flotté. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à Nicolas Rondin qui m'a aidé au niveau de la menuiserie ici au Segor, au Deux-Pins même. Voilà, donc c'est lui qui m'a aidé à les façonner. Et on pourrait les confondre parce que je les ai bien travaillés, patinés. Et presque difficile de voir la différence entre le bois fossilisé et le bois flotté.
C'est clair.
Voilà. Et alors, les éponges qui viennent de Grèce, hein. J'ai quelqu'un pour moi qui les pêche directement, qui sont les squelettes morts de l'animal vivant qu'il a pu être à un moment. Donc elles sont ramassées. Et moi, j'essaie d'avoir les plus gros spécimens. C'est très difficile à teinter. Parce que si on le teinte directement, l'éponge absorbe tout. Donc il y a toujours, j'ai développé un phénomène pour la durcir d'abord, avant de pouvoir la teinter. Et là, j'utilise des teintes qui sont quand même très très design, hein, comme des teintes aluminium, des dorures, du cuivre, du bronze, du violet. Voilà, j'invite tout le monde à les découvrir et à le mélange avec les socles. Font que ce sont des œuvres qui sont assez populaires. Hein. Depuis que je fais ce genre d'œuvre aussi avec les marbres, il y a une grande popularité. Il y a beaucoup de gens qui en font l'acquisition parce que c'est un élément de déco unique. Et en même temps, ça fait un rapport à l'océan et à la forêt. Voilà, on reste dans le projet purement...
Minéral et végétal.
Minéral et végétal, exactement.
Et moderne.
Et en plus, ouais, moderne.
Alors, il y a ces éponges qui viennent de Grèce, il y a tes sculptures en marbre qui sont pas sans évoquer des lieux emblématiques de la Grèce. Dans tes peintures aussi, des surfeurs, je trouve qu'ils sont presque déifiés. La Grèce, c'est aussi une grosse source d'influence.
Ah oui, oui, tout à fait. J'ai commencé d'ailleurs, quand j'ai commencé à faire de la sculpture, je me suis essayé à la sculpture classique pour faire mes armes. Et donc, ça va toujours rester une grande influence. La mythologie a toujours été une grande influence. Donc, effectivement, on peut y voir des déifications des surfeurs à travers des vagues dont le mouvement est très inspiré du nombre d'or. Et donc, on revient à la Grèce. Du coup, c'est un cercle qui fait que mes œuvres trouvent des références... je dirais pas secrète, mais qu'il faut détecter, il faut essayer de trouver un petit peu
les symboles.
Les symboles, ouais, c'est pas, elles sont pas ésotériques, hein, mais voilà, il y a un symbole, il y a des choses. C'est un dialogue que j'essaie d'exercer entre le spectateur et l'œuvre. Et souvent, j'essaye de même de faire de l'œuvre une sorte de miroir où chacun va pouvoir y voir sa propre vie.
S'y retrouver.
Et ouais, se faire un transfert presque.
Comment est née cette exposition, l'idée de cette exposition dans le restaurant du Golfe d'Osegor?
Alors, j'étais en contact d'abord avec Jacques Smeyer qui fait partie du bureau du comité du Golfe et qui est venu à l'atelier. Ce monsieur j'ai été mis en rapport avec lui grâce à Lucie Bauden qui travaille pour moi au sein de Pocket Creative. Et donc après cette venue, il a vu les œuvres, il a dit c'est bon, feu vert. Donc là, à partir de ce moment-là, j'ai rencontré Romain Bouillaguet qui est le gérant du restaurant. Et puis, il m'a invité à venir. Il est venu aussi. On a vu que le restaurant, on a fait un peu un état des lieux. Et on a décidé que, de mettre la date de départ, de fin. Et puis, il a équipé le restaurant avec des simèzes. Et c'était extraordinaire, puisque ça met en œuvre... toutes les œuvres sont magnifiquement accrochées.
D'ailleurs, c'est un bâtiment basco-landais qui est très lumineux, mais c'est aussi un lieu de vie. Est-ce que, du coup, ça a été compliqué, la scénographie, en plus par rapport à toutes tes séries d'œuvres, les peintures, les sculptures ?
Et pas tant que ça, parce que comme s'il y a beaucoup d'endroits, hein, les endroits qui sont où on a une vue sur le golfe, c'est fait comme une aile, hein, de chaque côté, on appelle ça les aquariums d'ailleurs. Et donc il était facile de mettre une thématique dans un aquarium, une autre thématique dans l'autre, et puis de faire une alcôve avec le golf, puis mettre les sculptures sur les endroits qui étaient un petit peu proéminents. Donc non, il y a une interaction forte, il y a un dialogue entre chaque œuvre. On passe pas vraiment de but en blanc sur quelque chose de différent. On est vraiment sur vraiment une relation artistique sur toute l'expo.
Et ta série golf, c'est parce que tu joues toi-même au golf ou c'est parce que les Landes sont avec toutes ces thématiques?
J'étais tennisman, j'ai tapé quelques drives ou quelques putts au golf. Mais non, j'ai jamais... c'est un sport que j'adore regarder, j'adore en faire l'analyse technique, même si j'y connais pas grand-chose. Mais venant du tennis,
Il y a des gestes qui te parlent.
Il y a des gestes qui me parlent, la minutie, la perfection, parce que c'est... Il faut être très, très juste au golf, je pense.
Tu nous parlais d'un atelier situé dans une cave à tes débuts. Aujourd'hui, il est où cet atelier? À Hossegor et un peu plus lumineux?
Oui, alors non, pas lumineux. J'ai toujours été quelqu'un qui travaillait quasiment sans lumière, naturelle. Et toujours avec des lumières blanches. Et ce qui fait que, en fait, peu importe l'œuvre que j'attaque, j'ai toujours la même luminosité. Voilà. Et j'ai pas le climat qui va faire changer, me faire voir le bleu ou le vert avec une autre tonalité. Non, c'est toujours égal, donc je sais que je connais bien mes couleurs, et donc elles ont toujours le même rendu à la fin, quoi. Donc l'atelier se trouve à côté de l'île du Malte, à Paix-de-Bert.
Okay.
C'est juste la porte à gauche de l'île du Malte, en fait, ça s'appelle la plateforme. Et voilà, donc je suis à l'étage, au-dessus du vestibule, qui est aussi le salon de coiffure. Donc je me situe là-haut et les gens peuvent m'appeler, venir visiter, me rendre visite, regarder les œuvres, me voir peut-être composer. Et ils sont toujours les bienvenus. Et ce lieu est vraiment, vraiment, j'adore.
Cool. Et tu crées tes œuvres en musique ou dans le silence?
Jamais dans le silence. Ouais, j'ai toujours adoré, moi, la musique. Je fais de la guitare depuis une trentaine d'années aussi. J'aime écouter la radio aussi, écouter des talk shows, ce genre de choses. Et puis après, dans l'après-midi, je passe sur de la musique, j'ai des playlists que je me fais. Je crois que j'avais plus de 1000 CD à l'époque, hein, comme on appelle encore maintenant.
Et donc, ça existe encore.
je compose avec des goûts très éclectiques, en fait. Hein, donc c'est toujours... J'aime combler ce silence parce que j'ai l'impression que ça me transporte un peu, quoi. Puis ça me met un peu hors du temps, quoi.
Pour ce matin, tu as choisi The Ecstasy of Gold, signé Ennio Morricone, BO d'un film bien connu. Ça a été compliqué de choisir parmi tes 1000 playlists sous-titres?
Oui, j'aurais pu choisir plein de choses, du métal jusqu'au rap, en passant par la musique classique, et puis la pop, la funk. J'aime bien, j'ai un goût très éclectique. Mais ce morceau, était une évidence, que c'est un morceau qui me met un peu les poils, quoi, et qui, pour moi, exprime un peu l'inéluctabilité de la destinée, quoi, voilà. Donc, quand je l'écoute, il est hors du temps, je trouve, ce morceau, et en plus, ultra connu. Après, je connais pas de gens qui l'apprécient pas, quoi. Voilà, puis bon, moi, j'adore Metallica aussi, donc... c'était l'intro des concerts de Metallica, donc ça me rappelle plein de choses aussi.
Ecstasy of Gold, d'Ennio Morricone, extrait de la BO du film de Sergio Leone, Le Bon, la Brute et le Truand, programmation musicale inspirante de mon invité aujourd'hui dans Good Morning Osegor, l'interview Christophe Mabillon, CEMAB, artiste plasticien et graphiste, qui expose jusqu'au 2 juin au restaurant du Golfe d'Osegor. Christophe, comment est accueillie l'exposition par les habitués du lieu, les golfeurs, les clients du restaurant, puisque le restaurant est ouvert à tous, hein, pas uniquement aux membres du club de golf?
Alors, en arrivant un peu dans un milieu qui me semble a priori fermé, il y a eu un accueil extraordinaire en fait de cette exposition, presque un prétexte pour commencer à discuter d'autre chose que du golf, rajouter de la couleur dans un lieu qui donnait l'impression presque d'être défraîchi puisque la déco n'avait pas bougé depuis 50 ans. Donc vraiment non, un accueil et puis d'ouverture sur des discussions, de nouvelles personnes qui viennent du coup découvrir ce lieu qui n'est pas réservé qu'aux golfeurs.
Non mais c'est ça, moi avant de découvrir l'exposition, je n'ai jamais mis un pied au golf et au restaurant du golfe d'Osegor. Et c'est ça aussi qui te plaît dans le fait d'exposer dans un lieu qui n'est pas forcément dédié à l'art, c'est de mélanger les publics, décloisonner.
Exactement, c'était un petit peu faire découvrir dans un lieu atypique mais absolument magnifique, qui est une œuvre d'art en lui-même, hein, et de venir manger dans ce restaurant très sympa qui est ouvert à tout le monde. Romain en plus a un accueil superbe et c'est une petite brasserie vraiment, je dirais un peu bistronomique, mais avec des prix très 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 accessibles. Manger en même temps, regarder les œuvres, regarder les golfeurs, s'inspirer de ce magnifique, cette magnifique nature. On a l'impression qu'elle était peinte comme sur une œuvre d'art. Quoi.
Mais c'est vrai que les baies vitrées, on dirait un tableau aussi. Hein.
C'est ça, ouais, moi j'invite, c'est vraiment magnifique. Le bâtiment lui-même est extraordinaire aussi. Voilà, le golfe d'Osegor, c'est vraiment un lieu qu'il fallait faire, the place to be.
Donc n'ayez pas peur, allez voir cette exposition, l'entrée est libre dans le restaurant. Christophe, tu le disais, tu es un artiste autodidacte qui a démarré par la sculpture, c'est à l'âge de 32 ans. Comment on passe du foot à la sculpture?
Comme je l'ai dit, le foot, j'ai pas pu continuer parce que les blessures m'en ont empêché. Et puis, comme je vous l'ai dit aussi, c'est une rupture amoureuse qui a fait qu'il a fallu que je me recentre sur moi et mes échecs et que j'aille puiser au fond de moi-même pour rebondir. Et c'est là que j'ai vu tout ce qui sommeillait et qui ne s'était pas encore exprimé jusqu'à ce jour.
Donc avant la sculpture, il y a eu la musique.
La musique, effectivement, qui a toujours été un loisir, jamais, même si j'ai joué dans des pubs ou ce genre de choses. Hein. Ça a toujours été un plaisir.
Mais, donc la guitare?
Mais ouais, la guitare électrique, ouais, avec plus des influences métal, quoi. Voilà, ce que j'aime beaucoup. Passer aux œuvres artistiques, ouais, en plus, ça m'a permis d'exorciser tout ce qui pesait en moi. Donc ça a été un peu une thérapie aussi, l'art. Et puis bah, découvrir que j'étais doué pour dessiner, pour créer surtout. Parce que autant en musique, je suis incapable de composer un morceau, j'ai aucune créativité. J'adore refaire des morceaux, mais par contre, au niveau artistique, et bah là, j'ai des accointances qui me permettent de créer plein de choses. Et puis on crée, et plus le spectre créatif s'élargit.
Et ce spectre créatif, tu l'as élargi en passant de ta cave à un atelier plus confortable et du coup en expérimentant la peinture aussi avec différentes techniques, différents matériaux, on le disait. On peut le retrouver dans toutes les œuvres exposées au restaurant du Golfe d'Hossegor. Comment tu as fait pour expérimenter toutes ces techniques? Est-ce qu'à un moment, tu as eu envie de suivre une formation un petit peu plus académique ou non? Tant pis, tu essayes et tu y arrives.
Non, j'ai toujours été quelqu'un qui allait chercher au niveau des livres, au niveau d'un... Après, quand là, venu d'internet, allez vous expérimenter une technique, c'est de la découvrir déjà seule, faire beaucoup d'erreurs avant d'arriver à la mettre en œuvre, pas parfaitement, parce qu'on n'arrive jamais à la perfection, mais d'en acquérir déjà au moins les bases. Donc ce côté autodidacte m'a permis d'avoir une expérience introspective c'est grâce à ça peut-être que je fais des choses peut-être un peu différentes de ce qu'on a l'habitude de voir, avec des mélanges un peu à la fois abstraits et très figuratifs.
Si on t'avait donné des clés tout de suite, t'aurais pas suivi ce cheminement d'expérimentation?
C'est toujours ce que j'ai pu observer dans les expositions, c'est que les gens qui avaient vraiment fait des études de beaux-arts, la plupart, je trouve qu'ils restent prisonniers un petit peu de l'académisme qu'on leur a inculqué.
T'as pas eu besoin de t'en défaire, toi.
Et exactement. Voilà, moi, j'étais pas imprimé par ça. Et et ceux qui sont très forts s'en extraient hein, de l'accès à l'académisme et deviennent, avec les bases beaux-arts, deviennent des artistes extraordinaires. C'est pas ce que je remets en cause. Hein. Mais moi, je me suis fait tout seul. Voilà, avec mes influences que je revendique, avec mes inspirations, mes difficultés. Je suis quelqu'un qui bosse beaucoup. C'est-à-dire que je peux passer un temps énorme pour réussir à faire un petit quelque chose qui va me permettre de mettre, que je vais pouvoir mettre dans une œuvre. Donc voilà, je suis quelqu'un qui passe du temps, qui va au fond de la technique, et après je m'en sers comme d'un outil pour exprimer tous mes différents styles. C'est pour ça que je dis que quand même j'ai une technique qui reste un petit peu en commun malgré les thématiques et malgré les différences qu'on peut voir au niveau stylistique. Mais je m'inspire toujours de choses que j'aime et je fais jamais de choses contre-emploi ou...
Contre-cœur,
oui, pardon. Ou hors sur commande.
Tu es originaire de région parisienne. Quand et pourquoi es-tu arrivé dans les Landes?
Alors, j'ai eu une carrière dans l'armée de l'air. J'ai travaillé au centre d'essai des Landes pendant 10 ans. L'âge de 21 ans jusqu'à 31 ans. Puis après, j'ai dû revenir en région parisienne cause de mutation. Et puis, mais j'étais marqué au fer rouge par les Landes. D'ailleurs, j'ai découvert Hossegor en 1989. Et ça a été un coup de foudre. Et je savais que, de toute façon, un jour, je viendrais vivre ici. Il n'en était pas autrement. Hein. Il ne s'agissait pas d'aller vivre ailleurs. Quoi. Donc, ma carrière a toujours été, finalement, orientée pour qu'en finalité, le chemin revienne ici. Donc, en 2015, j'ai décidé de revenir avec, et mon épouse a quitté son travail pour revenir aussi travailler ici. J'adore cette région. J'y trouve tout ce que j'aime, la tranquillité, la nature les relations avec les gens sont vraiment exceptionnelles. Et puis je voulais que ma fille, qui a maintenant 12 ans, grandisse aussi dans ce milieu. Je dirais, on est quand même un peu favorisés ici. Hein.
Dans une bulle.
Sous bulle, exactement.
Je te confirme. Et tu as commencé le bodyboard dès ton première arrivée dans les Landes dans les années 90?
Non, j'avais commencé quand j'étais gamin avec les planches en polystyrène. J'ai dû en casser je ne sais combien. Même mes parents, je ne sais pas, je devais avoir 8 ou 9 ans. Mes parents me disaient, mais non, c'est pas possible, tu vas nous coûter, nous coûter un bras, tout ça. Après, je devais casser 3 ou 4 planches par session. Mais bon, c'était l'époque où on prenait vraiment, il n'y avait pas de palme encore, et donc on prenait que les vagues, que les mousses, quoi. Mais j'ai eu le virus à ce moment-là, quoi. Et puis après, quand je suis arrivé travailler au centre d'essai des Landes, là, j'ai des copains surfeurs qui m'ont pris sous le bras et ils m'ont dit, allez, maintenant, on va faire pour de vrai, quoi.
Donc, tu as fait comme des années que tu pratiques.
Donc voilà, j'ai fait à peu près une dizaine d'années de pratique, et puis quand je suis revenu ici, bah, là, c'était à plein pot, quoi. Voilà, donc non, c'est un sport que j'adore, hein, qui nous fait apprendre sur soi, sur qui on est, et puis voilà, que des fois on joue pas, quoi. Il faut prévenir plus que guérir.
Tu es chevalier de l'ordre des arts et des lettres. Est-ce que c'est le type de reconnaissance qui compte pour toi?
Ah oui, c'est énorme, parce que je crois qu'il y a moins de chevaliers des ordres des arts et des lettres que de gens qui ont la Légion d'honneur. Hein. C'est une distinction qui est très compliquée, donc c'est une facette dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, parce que dans l'armée de l'air, je faisais plus de l'informatique, et je rayonnais au niveau artistique à côté. Et quand vous commencez à avoir des journaux ou des chaînes de télé câblées qui viennent faire des reportages sur vous, votre hiérarchie commence à se poser des questions, quoi. Donc commence à s'intéresser. Et puis commence à essayer de, pour un cadeau, pour une haute autorité, commence à essayer de vous demander si vous pouvez réaliser, etc. Donc de fil en aiguille, on est arrivé que c'est le chef d'état-major de l'armée de l'air, à un moment, qui a eu connaissance de l'art que je pratiquais à côté de mon métier de militaire, qui m'a demandé si je voulais faire un cadeau pour le président. C'était Chirac à l'époque, qui est venu à Cazaux d'ailleurs. Et j'ai dit ok, allez, on relève le défi. Et puis ça a été extraordinaire. Et puis après, il y a eu la venue d'Aliomari à Mont-de-Marsan. Pareil, alors, j'ai fait des marbres, hein, à l'époque. Des marbres qui commémoraient leur venue. Ou le vol d'Aliomari en rafale, hein, c'est de mémoire. Voilà, et puis moi, à l'époque, je voulais quitter l'armée de l'air et faire complètement autre chose, voler et faire mon métier artistique à plein temps, quoi. Et c'est là qu'on m'a proposé l'aide de camp du grand chef, m'a dit, et si on te proposait de faire que ça?
Génial.
Bon, bah banco, comme quoi dans l'armée, on peut créer des choses.
Le meilleur agent,
ouvrir,
en fait.
Ouvrir. Donc on a créé un atelier d'art, et pendant 10 ans, j'ai en fait créé des œuvres d'art qui étaient offertes aux hautes autorités du monde entier.
Okay.
Donc avec ce rayonnement et toutes ces collections qui commençaient à s'accumuler, pour faire le dossier pour les chevaliers des arts et des lettres, ça a été beaucoup plus simple. Je faisais rayonner la France au-delà, à l'étranger, et à travers les œuvres que je composais. Donc je rentrais tout à fait dans le cadre de cette récompense,
que
je trouve exceptionnelle, hein. C'était Aurélie Filippetti, je crois, qui m'avait, à l'époque, était ministre de la Culture.
Dans cette exposition au restaurant du Golfe de Segor, on peut découvrir aussi une peinture, sculpture de Marilyn Monroe. Donc là, on sort un petit peu des Landes, qui a été réalisée en Lego, dans un style pop art. Et puis c'est un style que tu développes actuellement avec une série autour de stars. Il y a Slater, Mickey, Kurt Cobain, ou encore Jim Morrison, Dark Vador, avec une espèce de technique, tu me dis, tu me corriges, hein, si je dis des bêtises, mais de pixels, de lignes dans ce style pop art. C'est en partant des Lego que t'en es arrivé là?
Alors j'ai toujours été, comme je dis, très influencé par Vasarely, et je trouvais ce côté très mathématique très intéressant, et je voulais le lier au portrait, et donc faire un peu, utiliser la cinétique et donner l'impression de ne pas voir le portrait, mais qu'il se dévoile en fonction de la distance. D'ailleurs, on peut voir une œuvre comme ça qui est à l'église de la Trinité. C'est une planche que j'ai faite avec Paul Duvigneau, qui l'a chépée.
Pour l'exposition du centenaire?
Non, pas pour l'exposition du centenaire. Maintenant, qui fait partie du patrimoine de l'église. C'était vraiment sur une demande de l'église.
D'accord.
Et elle est maintenant fait partie du patrimoine, ce qui est unique au monde, hein, puisque une planche bénite dans une église, Hossegor est le premier à l'avoir fait. Voilà, donc elle se trouve, j'invite les gens à la voir à la Trinité. Et elle rentre tout à fait dans cette série des portraits cinétiques où on peut y voir quelque chose de très abstrait de près et tout d'un coup voir le sensuaire apparaître
dès qu'on prend
sa distance. C'est en fait un mélange de fluides, voilà, l'infiniment petit, l'infiniment grand se mêle un petit peu. Alors, ce que je voulais, c'est développer des structures et des techniques qui sont très difficiles à faire en intelligence artificielle ou avec un logiciel. Et c'est un peu le principe, c'est-à-dire que voilà, j'ai développé des choses que, à mon avis, bon, peut-être qu'un ingénieur pourrait réussir à s'en approcher, mais... Voilà, c'est des choses que je fais à la main, que je travaille, voilà. Enfin, j'utilise une structure et ce qui me sert de grille pour lire le portrait, voilà. Donc, effectivement.
Mais que tu réalises à la main.
Voilà. Donc, j'ai une galerie qui s'appelle la Galerie 125, qui est en Moselle, qui m'a déjà commandé pas mal de portraits pour la vente. Donc, ça commence à intéresser des gens. Et puis, bah, je voudrais dire aussi que, par exemple, Kelly Slater a mis son portrait sur sa photo Instagram.
Ok.
Voilà, pendant 3-4 jours, c'est incroyable quoi.
Cool, c'est clair.
Voilà, donc c'est que ça a fait son chemin.
Et puis qu'il s'y est retrouvé aussi.
Exactement.
Et en ce moment, le projet, c'est de développer cette série ou tu as d'autres projets pour cette année?
Oui, je vais développer cette série, essayer de trouver d'autres structures, mais j'ai aussi d'autres projets en parallèle. J'aimerais beaucoup retravailler un peu sur l'architecture, notamment je voulais faire une série sur toutes les fameuses maisons qui sont classées ici sur Hossegor, donc peut-être en faire 2 ou 3 de plus, parce que j'ai vu qu'à l'exposition ça avait énormément plu, donc je vais essayer d'en faire 2-3 de plus, parce que j'avais déjà croqué la chapelle de la plage de Notre-Dame des Dunes, l'église de la Trinité. D'ailleurs, ces deux aquarelles sont maintenant, je les ai offertes à la paroisse. Et puis j'ai fait une qui est en face du golf qui s'appelle Iseat Churuta, je crois. Peu importe, faudrait vérifier, mais c'est vrai que c'est des noms qui sont purement landais.
On peut la retrouver à l'exposition.
Ouais, elle est à l'exposition, effectivement.
D'autres expositions pour cette année?
Alors. J'ai une exposition, j'ai fait une série de skateboards, des postcards sur skateboard, qui sont plus des skulls, des crânes, et ils sont exposés au magasin Vans à Biarritz.
Ok.
Voilà, beaucoup de collaborations aussi, j'ai fait pas mal de collabs, et il y en a qui sont en vue aussi. J'avais commencé à faire une collab avec Patrick Beven, le surfeur, et on va refaire encore. Apparemment, c'est prévu qu'on refasse des choses ensemble. Il aime beaucoup les graphismes que je fais, donc il aimerait en avoir un peu sur ses planches. J'ai fait aussi des collabs avec les palmes d'Affine. Voilà, donc il y a eu des t-shirts après qui ont été faits. J'ai fait des collabs avec justement celui qui me fait les skateboards, qui s'appelle Big Mess, Asenios. Voilà, lui, il me fait des customs, donc des pièces uniques, hein, vraiment extraordinaires, Alexandre. D'autres collabs à venir, je pense qu'il va y avoir le choix, à mon avis.
Bon, en tout cas, tu aimes rendre ton art accessible à tous.
Ouais, le partager aussi, c'est ça qui est très intéressant.
Je vous invite à le découvrir au restaurant du Golfe d'Hossegor, exposition de Christophe Mabillon jusqu'au 2 juin, également à la boutique Vans, donc à Biarritz, sur des skates. Et puis on peut te suivre sur les réseaux sociaux, CMAB.
Exactement.
Merci beaucoup, Christophe.
Merci.
C'était Good Morning Hossegor, l'interview. Rencontre avec les acteurs du territoire, du lundi au vendredi à 9h, rediffusion à 16h.